CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
C'est CFO Radio, c'est un nouveau numéro. Bonjour et bienvenue à nos 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à réagir sur notre compte LinkedIn, cforadio.tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, plus de 111 000 collaborateurs présents dans 164 pays. Yann Allosserie, responsable grand compte chez G-Collect, et Olivier de Gaetano, directeur général Europe de l'Ouest de Tagetik. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler logement, puisque nous recevons Jonathan Cali, DAF de The Boost Society. Bonjour Jonathan.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Alors vous êtes parisien, on s'était donc déjà vu, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous avez fait, je le rappelle, des études d'économie et de gestion, finance, des marchés avec un Master 2, vous intégrez EY, vous avez donc fait de l'audit, du commissariat, etc. L'audit, on apprend beaucoup ?
Oui, très très belle école professionnelle et de la vie aussi, beaucoup de rencontres, beaucoup de responsabilités rapidement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, une énergie incroyable, tous ces jeunes qui sortent d'école et d'université.
Un brassage important.
Un brassage très important, horizons divers, mais tous focus sur le résultat, la performance. Et non, une belle école.
Bon, et 8 ans plus tard, vous devenez le CFO d'un family office. Là, c'est un autre monde, là.
Tout à fait, oui. Après 8 ans chez EY. J'ai voulu me confronter déjà un peu plus à l'immobilier, qui était ma passion, en fait, et dans mon ADN. Et donc, je suis allé dans le family office de Jackie Lorenzetti, qui était, en fait, au Valto, et qui détenait effectivement un gros patrimoine immobilier. Et ça m'a permis de mettre un premier pied à l'étrier sur la pierre.
Voilà. Et alors, drôle d'idée, en 2014, vous entrez chez Société Générale pour fusion et acquisition. Vous changez complètement, en fait.
Alors, Société Générale, c'était une longue histoire de professionnel, parce que c'était mon principal client chez EY. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait une belle proposition pour revenir chez eux. Et donc, j'ai fait 3 ans en corporate M&A avec mes anciens clients, finalement. Ouais.
C'est pas bête. Et enfin, donc, Clay, The Boost Society, beaucoup de marques. Donc, The Boost Society, c'est la marque maintenant générique.
Oui.
C'est ça. Dites-nous un peu ce que c'est. Rappelez-nous
alors,
un peu.
Quand on s'est rencontrés, c'était uniquement Clé.
C'est ça.
Donc, c'était le co-living étudiant, c'est-à-dire les résidences étudiantes, plus simplement. Et puis, on a récemment lancé une nouvelle offre qui est le co-living pour les jeunes actifs. Donc là, vraiment les jeunes en transition de vie qui se lancent dans la vie professionnelle. Et donc, cette marque s'appelle IFE, comme la contraction de High Life. Et donc, en fait, cette marque Clé pour les étudiants et cette marque IFE pour les jeunes actifs font qu'on a voulu regrouper tout ça sous une marque corporate qui est The Boost Society. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui booste pas mal et qu'on dit souvent pour les étudiants, boost your life. Pour les jeunes actifs, boost your talent. C'est un peu les taglines qu'on met. Et donc, on a regroupé tout ça sur le Boost Society pour englober cette énergie, on va dire, corporate.
Et une troisième marque, je crois, en Espagne ?
Oui, Campus, sur des résidences étudiantes espagnoles.
Société franco-française.
D'où franco-française, son nom. Tout à fait.
D'où son nom, The Boost Society, évidemment.
Oui, doucement, tout à fait.
Le chiffre d'affaires, on peut connaître ?
On est autour de 45 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui.
Et combien de salariés ?
On est 130 salariés, mais on a beaucoup de projets dans le pipe et en construction également. Donc,
ouais. Bon, vous allez nous raconter ça. Laurent ?
Alors, Jonathan, le co-living, vous avez dit un peu, c'est la colocation augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Et surtout, comment est-ce qu'on passe d'un environnement où on doit être peut-être à 90% des produits de défisque, où finalement l'acheteur s'en fiche un peu du confort d'étudiant? Et comment est-ce qu'on remet l'étudiant ou le jeune au cœur de l'habitation dans ce contexte?
J'aime beaucoup l'expression colocation augmentée. Je pense que je vais la récupérer. Parce que
il y a des droits.
C'est une très bonne question. En fait, historiquement, la résidence étudiante, c'était quasiment uniquement de la défiscalisation des produits de vente à la découpe par des promoteurs pour défiscaliser, comme vous, comme moi, pour défiscaliser ses revenus. Ce qui avait un avantage, c'est que ça relançait la construction pour les étudiants, donc ça avait quand même une vertu. Le revers de ça, c'est que c'était souvent des constructions qui étaient optimisées réellement financièrement avec assez peu d'espace commun, assez peu de services dans les résidences, assez peu de vie finalement dans la résidence. Et c'est vrai qu'on a voulu un petit peu changer ça en étant nous propriétaires exploitants. Donc on détient nos murs et on exploite le fonds de commerce. Et donc on fait en sorte de donner un peu plus d'espace commun, un peu plus d'espace dans les chambres aussi et plus de vie dans la résidence dans l'année. Ça c'est pour les étudiants et puis avec un niveau encore plus augmenté pour les jeunes actifs. On pourra en parler après.
Qu'est-ce qu'il y a en plus d'ailleurs pour les jeunes actifs?
Alors, jeunes actifs, un peu plus de moyens, un peu plus d'attentes aussi, hein, c'est sûr, quand on a son premier job. Et puis, avec le Covid, on a quand même eu la transformation du travail avec le télétravail, le flex office, les personnes qui viennent, besoin de flexibilité. Donc, on a des plus grands studios, des plus grands espaces communs. On est quand même plutôt sur des localisations un peu plus centrales, hein, dans les villes, et un produit un peu plus fini, on va dire, un peu plus qualitatif. Mais bon, très comparable aussi dans l'esprit.
Ouais, ouais. Olivier.
Jonathan. Vous venez de parler de l'expansion internationale avec l'Espagne. Est-ce que vous avez prévu de vous déployer à Singapour où on ne trouve pas une colocation en dessous de 2 500 $?
Alors, ce n'est pas encore dans le projet court terme, mais c'est vrai, ce dont on se rend compte, c'est que le déficit de logement et les prix des logements sont devenus assez délirants, hein, dans beaucoup de capitales. Je pense qu'en Europe, c'était Londres, hein, les premiers à faire des colocs, ouais. Parce qu'en fait, c'était impossible de se loger. Aujourd'hui... À Paris, c'est devenu aussi le cas. Enfin, j'entendais l'interview sur Crédit Logement, on voyait que les loyers étaient de plus en plus chers, que les gens avaient du mal à accéder à la propriété. Donc, on cherche des logements pas trop chers et plutôt centraux. Et donc, je pense que cette offre de co-living, pas encore à Singapour, mais déjà en France, en Espagne, peut-être un peu dans les restes de pays européens, peut adresser beaucoup, beaucoup de demandeurs de logements et avec en plus un côté assez sympathique et ludique dans nos résidences. Donc, vraiment, le déficit de logement, pour donner un chiffre, en gros, pour les étudiants, c'est 3 millions d'étudiants et environ 350 000 logements étudiants en France. Donc, on a quand même un ratio d'un pour 10. Alors, certains étudiants restent chez leurs parents, d'autres vont dans des petits studios aussi en ville, mais des résidences étudiantes, c'est une chambre pour 10 étudiants. Donc, on a quand même beaucoup de place. Et on pense que pour les jeunes actifs, ça devient aussi un problème parce que c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus tendu et on est content de se retrouver en même temps quand on se lance dans la vie, dans des espaces partagés, des espaces communs de nos résidences.
C'est des chiffres assez incroyables.
Oui.
Yann.
Alors, vous avez fait les étudiants, vous faites les jeunes actifs. Est-ce que vous ferez les résidences seniors ou en tout cas le co-living senior?
Pourquoi pas. Ouais, on se voit bien être le spécialiste du résidentiel géré en général. C'est vrai qu'on a testé les jeunes actifs là depuis 2 ans et ça fonctionne très bien. Avant d'arriver au senior, on pensait aussi à l'étape family. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de familles recomposées, de divorces, de familles monoparentales. Et on se rend compte que c'est toujours très compliqué de trouver une crèche près de chez soi, de trouver une place également. C'est toujours compliqué de recevoir également des amis quand les espaces sont un peu confinés, quand vous venez de vous séparer ou vous lancer dans une nouvelle vie. Et donc, on voudrait imaginer aussi une résidence pour les familles qui pourrait permettre d'avoir une crèche en bas, une grande salle de sport plutôt que d'aller prendre le métro pour faire du sport. Et tous ces services qui pourraient aussi adresser un besoin aujourd'hui qui est aussi présent.
Justement, sur les services additionnels, c'est une grosse part de votre chiffre d'affaires ou...
Alors, pour les étudiants, c'est inclus. Donc, c'est vraiment un service qu'on propose. Pour les co-livers, c'est une part... assez marginal en fait aujourd'hui, mais ça pourrait devenir plus important demain, notamment avec les familles. Ouais.
Et c'est le rêve, et sur toute la France évidemment, vous êtes sur toute la France aujourd'hui.
Tout à fait.
Avec la volonté, comme on disait tout à l'heure, peut-être d'aller ailleurs, donc un peu d'Espagne.
Donc on a commencé un peu en Espagne, on a eu également pas mal de pistes au Portugal, Italie, toute l'Europe du Sud. Singapour, c'est pas encore tout à fait dans le radar, mais on n'a pas vraiment de limite géographique, on va dire.
Olivier.
Est-ce que vous arrivez dans la prise de décision à conserver de l'agilité étant dans le giron de AXA?
Oui. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment sur la partie opérationnelle et développement, on a une vraie confiance de l'actionnaire. Donc, on arrive à avancer très vite. Pour donner un ordre d'idée, on a des comités chez AXA tous les vendredis pour des décisions d'investissement. Donc, en fait, ça peut être assez efficient. Donc, non, ça se passe plutôt de façon efficace.
Bon, Jonathan, au moment de vos études, vous avez fait le tour d'Europe. Est-ce que vous avez un endroit qui vous a vraiment tapé dans l'œil à nous conseiller? Tiens.
J'avais fait le tour d'Europe en train, c'était le Interrail Ticket
à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Oui.
Extraordinaire.
Merci du souvenir.
et je crois quand même le plus marquant dans ce voyage-là, parce que c'était quand même très européen, mais c'était quand même l'arrivée en train à Istanbul de très très tôt le matin.
Vous avez une Europe large, vous, quand même.
Oui, c'était une Europe très large, en l'occurrence. Et là, c'est vraiment le plus dépaysant. C'était quand même cette arrivée-là. Donc, je recommande à faire.
Bon, pour terminer, le PSG, champion d'Europe cette année, peut-être, enfin.
Alors, on espère, parce que là, en plus, on a un corps Mbappé, donc on va quand même croiser les doigts.
Il sert à quelque chose.
On va y croire, il faut toujours être positif.
Pour terminer quand même, Vision du Monde, vous nous en dites un peu plus?
Oui, Vision du Monde, c'est un beau parrainage, une belle association pour parrainer un enfant dans un pays en voie de développement, on va dire, et qui permet de suivre également l'enfant que vous accompagnez avec des photos, des relations un peu épistolaires. Donc, il y a un vrai suivi des enfants que vous accompagnez. Et ça résonne et ça fait sens avec le projet professionnel étudiant. En plus, construire des écoles ou accompagner des jeunes, c'est quand même pas un beau projet.
C'est bon à connaître, effectivement. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci
également à vous, Laurent, Yann et Olivier. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.